Oui, on va commencer notre 16e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir le grand schisme d'Orient, donc la séparation qui a eu lieu entre l'Église catholique et celle de l'Orient. Et on va regarder aussi à peu près à la même époque la fondation des divers grands ordres religieux catholiques qui ont eu, bien entendu, une influence très importante dans le développement du catholicisme. Alors, on va étudier aujourd'hui un événement qui a eu vraiment une influence majeure dans l'histoire de l'Église, le grand schisme d'Orient, qui a amené la séparation de l'Église de Rome de celle de Constantinople, qui devint par la suite l'Église orthodoxe, comme par exemple aujourd'hui en Russie, c'est l'Église orthodoxe, donc ça part de cette date-là, le 1054. Là, on va aussi examiner comment s'est fait le développement des grands ordres religieux en Occident. Alors, on va commencer par le grand schisme d'Orient en l'an 1054. Alors, j'avais utilisé le matériel dont j'avais parlé au début des leçons d'un Américain. J'ai tout regardé ça et ça aurait été un travail immense de vouloir retraduire cela. Puis j'ai trouvé un article dans le dictionnaire Larousse qui donne à peu près en français l'équivalent de ce que j'avais dans cette leçon-là. Alors, vu que c'était déjà en français, j'ai dit on va y aller avec ça. Alors, dans le dictionnaire Larousse, dans l'encyclopédie, ils ont un article qui s'appelle « Le grand schisme d'Orient ». Alors, comme définition à ça, ils disent que c'est la rupture qui a brisé en 1054 l'unité de la communion chrétienne entre les églises romaines catholiques et byzantines, donc orthodoxes. Donc, on va regarder comment s'est faite cette émergence-là qu'on pourrait dire des deux chrétientés. Comme introduction, on peut dire la partition de l'Empire romain en 395 avec Rome et Constantinople pour capitale a contribué à la naissance de deux mondes aux langues et aux cultures différentes qui ont développé chacun une tradition religieuse originale. La lente émergence de ces chrétientés est à l'origine de divergences, de rivalités et parfois même de conflits dont le paroxysme correspond au schisme de 1054. Alors, la divergence d'interprétation parmi les facteurs qui ont fait ce schisme-là, cette division-là, il y a la divergence d'interprétation de la primauté romaine. Autrement dit, qui avait le droit de commander l'autre partie, l'Orient? C'est-tu l'Orient qui commandait l'Occident? C'est-tu l'Occident qui commandait l'Orient? Donc, ça a été une histoire de pouvoir, ils se sont disputés le pouvoir de façon constante. Alors, l'essentiel du contentieux entre Occident et Orient porte sur l'étendue du pouvoir accordé respectivement à Rome et à Constantinople. Alors, Rome tire alors ses droits du fait qu'elle a été fondée par un apôtre, qu'elle dit, Pierre. Si d'autres sièges, comme par exemple Alexandrie, Antioche et Jérusalem, bénéficient aussi de ce principe d'apostolicité, Rome, quant à elle, revendiquait la primauté parce que c'est à Pierre, évêque de Rome, que le Christ a, selon eux, confié la direction de l'Église. Pour sa part, Constantinople n'a pas d'origine apostolique. Aussi tire-t-elle son autorité du principe d'accommodement, en vertu duquel la hiérarchie ecclésiastique doit être calquée sur les structures administratives de l'Empire. Voyez-vous, eux, leur façon de fonctionner, c'est plus calquer leurs structures selon les structures civiles, les structures politiques. Alors, élevé au rang de patriarcat au Concile de Constantinople en 381, elle se voit accorder par le Concile de Chalcédoine, en 451, la deuxième place derrière Rome, ainsi que l'extension de sa juridiction sur les diocèses de Thrace, d'Asie et du Pont. On voit ça dans le Nouveau Testament, ces régions-là. Dans le même temps, le Concile reconnaît une primauté à Rome, Si Constantinople l'interprète comme une primauté d'honneur, ne donnant aucune prérogative au pape sur ses propres fidèles, Rome juge que cette primauté lui attribue la direction de toute la chrétienté et fait d'elle une juridiction d'appel. Alors là, on voit le conflit vient du fait qu'ils s'ostinaient entre eux sur qui avait le droit de commander l'autre partie. Et il y a eu aussi une autre dimension à cette querelle-là, ça a été les dimensions politiques. Au-delà de la querelle spirituelle sur l'ordre hiérarchique à établir entre les évêques de Rome et de Constantinople, le différend entre Orient et Occident chrétien trouve également son fondement dans une dissension politique. Théoriquement, l'évêque de Rome, avec le pape, il serait supposé être le sujet de l'empire, l'empereur byzantin, qui était seul héritier de l'Empire romain depuis la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Donc, théoriquement, il aurait été supposé de dépendre du côté oriental du point de vue politique, lequel doit assumer supposément sa sécurité. Or, au 8e siècle, la menace lombarde sur la péninsule italienne amène les papes à chercher une nouvelle protection parmi les puissances occidentales. C'est en ce sens qu'ils se rapprochent des Francs, on avait vu ça, en 1654, le roi Pépin le Bref est sacré par le pape Étienne II, qui obtient en échange que le roi délivre Rome des Lombards et qu'il lui cède les territoires conquis en Italie centrale. Achevant le renversement des alliances, le couronnement impérial de Charlemagne en 800 consacre également la formation d'un nouvel empire occidental. Rome a définitivement quitté le monde oriental pour se tourner vers l'Occident. Et oui, il était supposé de dépendre des structures politiques orientales, mais à cause de leur situation d'attaque des peuples, ils ont été obligés d'aller chercher la protection des Francs, qui sont les Français modernes. Alors, ils se sont comme un peu isolés et c'est devenu vraiment une entité politique différente. Autre chose qui est autre facteur qui a contribué à développer cette querelle-là, ce schisme-là, ce sont les dissensions dogmatiques et liturgiques. À ces rivalités politiques s'ajoutent des dissensions culturelles, linguistiques. Par exemple, c'est le grec dans le monde byzantin et c'est le latin en Occident. Et surtout, les dissensions de nature théologique. Les affrontements les plus graves entre Rome et Constantinople sont ceux qui découlent de la question du folioque et du fils. Alors que c'est fameux, il y a eu une façon de dire dans les confessions de foi qu'il y a eu une très grande différence d'interprétation entre l'Orient et l'Occident. Et c'est cette fameuse folioque-là, ça a créé d'immenses problèmes. Alors, cette expression-là, « et du Fils », expression ajoutée au credo par l'Église romaine au VIe siècle, alors ça dit dans cette confession de foi-là, « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. » Puis eux n'acceptaient pas d'avoir ajouté que le Saint-Esprit procédait à la fois du Père et du Fils. Au IXe siècle, le schisme entre le patriarche Photios et le pape Nicolas Ier, dit schisme de Photios, secoue gravement les deux églises sur cette question. Les tensions réapparaissent lorsqu'en 1009, le pape Serge IV accepte, à la demande de l'empereur germanique Henri II, de rajouter le folioque dans la récitation du credo. En réponse, le patriarche de Constantinople aurait rayé des diptyques le nom du pape et envoyé en 1024 une ambassade à Rome pour revendiquer le titre d'écuménique traduit par universel en latin. Autrement dit, quand lui a voulu approuver que le roi d'Allemagne ajoute, l'autre il s'est fâché puis a dit « Ah oui, moi ça fonctionne pas comme ça » et lui a voulu dire « Maintenant c'est moi qui est l'évêque universel de tout ça ». Alors, ça ne se présentait pas bien, disons. Outre la querelle dogmatique du Foliocé, la dissension entre Occident et Orient concerne aussi les images liturgiques, aussi les usages, c'est-à-dire les usages liturgiques. La communion sous forme de pain azim, donc le pain sans levain, la manducation des viandes étouffées, le jeûne du samedi, la suppression de l'Alléluia en carême, sont autant de pratiques latines qu'ignorent les Grecs. Alors, prendre la communion avec du pain sans levain, les Grecs ne faisaient pas ça. Et c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui, accumulées, ont fini par développer des problèmes sérieux. Et aussi, les usages disciplinaires, les différences énormes qui existaient entre le groupe oriental et le groupe occidental. Par exemple, les prêtres orthodoxes avaient le droit de se marier. Les prêtres catholiques n'avaient pas le droit de se marier. Alors, ça faisait une énorme différence, là. Il y avait aussi, c'était donc le mariage des prêtres autorisé en Orient, interdit en Occident. Alors, le schisme chrétien en 1054. On va raconter un petit peu de quelle façon ça s'est produit dans les détails pour que vraiment ça finisse par se séparer comme deux groupes complètement différents. Alors, en 1043, Michel Kyroularios, dit en français Michel Cérulaire, est désigné patriarche de Constantinople par l'empereur byzantin Constantin IX, Monomaque. Michel Cérulaire se présente comme un fervent défenseur des droits du patriarcat. 6 ans plus tard, à Rome, un nouveau pape est élu, Léon IX. Partisan convaincu de la réforme de l'Église, donc la future réforme grégorienne dont il est l'initiateur, il s'entoure de cardinaux convaincu par son action, tel le légat Humbert de Moyenmoutier, c'est un nom. C'est dans ce cadre que le schisme entre Orient et Occident vont éclater. Autrement dit, ils sont en train de nous présenter les deux principaux personnages qui ont fait en sorte que eux, quand ils se sont affrontés, ça a été la guerre, comme on dit. Alors, la dégradation des relations diplomatiques. La dégradation des relations diplomatiques. Depuis le 9e siècle, l'Italie du Sud est un territoire byzantin où s'élèvent de nombreuses églises de rite grec. Or, le pape Léon IX entend y implanter le rite latin. Voyez-vous, dans une partie de l'Italie, il y avait certaines églises avec le rite oriental, avec la langue d'expression, le grec. Puis le pape a dit, ça ne marchera pas de même, dans mon territoire, la langue du culte, c'est le latin. Alors, vous voyez les conflits potentiels. Alors, comme le reste de la péninsule et le reste de l'Europe. En réponse, le patriarche Cérulaire fait fermer les églises latines de Constantinople qui n'observent pas les usages liturgiques grecs. Vous voyez, à cause que le pape a voulu imposer le latin dans les églises grecques de l'Italie, quand que l'autre a vu ça, il a dit, OK, vous autres, vous avez des églises d'usage du latin dans notre territoire, on ferme ça. Fait que là, ça l'a pas bien. Dans le même temps, Michel Cérulaire demande à Léon d'écrire à Jean, évêque de Trani en Italie du Sud, une lettre qui doit être transmise au pape et à l'épiscopat franc. Le document, qui veut se donner l'apparence d'une invitation à la discussion fraternelle, énumère de fait tous les griefs sur les usages liturgiques que les Grecs ont contre les Latins. Mal traduite, cette lettre est perçue comme injurieuse par le pape Léon IX. Voyez-vous, on a un autre problème. Il y avait la langue. Alors, si tu écris une lettre en grec, puis tu donnes ça à quelqu'un pour aller la traduire en latin, puis qu'il fait mal la job, la langue, on sait que c'est subtil, les mots véhiculent des idées bien précises, et à quelque part, la traduction avait été mal faite, et ça l'a créé des problèmes sérieux. Alors, sa lettre de réponse, dont la version grecque est à son tour peu conforme au texte d'origine, voyez-vous, il répond en latin pour aller le dire en grec, puis la traduction encore là. Alors, deux traductions mal faites. Constantinople écrit à Rome, la traduction est mal faite. Rome écrit en latin à Constantinople, la traduction est mal faite. Alors, c'est les conflits potentiels qui se développent. Alors, ça dépasse la question de la différence des usages liturgiques et insiste sur la primauté de Rome. Voyez-vous, quand Rome a répondu à Constantinople, dans la réponse, il y avait « c'est nous qui sommes les boss ». Tu sais, c'est comme, quelque part, ça venait développer. Alors, la crise s'est vraiment faite. L'an 1054, c'est vraiment l'année où que tout s'est fait, là. Alors, l'empereur Constantin IX, Monomaque, qui recherche la conciliation, chapitre Michel Cérulaire et écrit au pape qu'il souhaite la paix, tout en lui promettant de lui envoyer des secours dans sa lutte contre les Normands en Italie du Sud. Voyez-vous, on va faire des choses, mais en échange, on va vous donner de la protection dans les guerres que vous avez dans votre coin. Alors, Léon IX, témoin, conscient de l'urgence d'une union entre les deux églises du fait de la dégradation de la situation militaire, décide d'envoyer une ambassade à Constantinople pour négocier l'alliance anti-normande. Alors, là, il est intéressé à avoir de l'aide orientale parce qu'il y avait des problèmes militaires dans son propre coin. Alors, les représentants du Saint-Siège, le cardinal Humbert de Moyenmoutier, Frédéric de Lorraine et l'archevêque Pierre d'Amalfi sont bien reçus par l'empereur, mais très vite, le conflit s'envenime avec Michel Cérulaire. Tandis que Léon IX vient tout juste de mourir, les légats, voulant faire pression sur l'empereur Constantin, excommunient solennellement Michel Cérulaire le 15 juillet 1054. Le patriarche, soutenu par le peuple et le clergé de Constantinople, déclenche une émeute qui contraint les légats à prendre la fuite. Le 24 juillet, il promulgue avec le synode un édit condamnant les légats venus de l'Occident. Alors, le pape avait envoyé ses représentants et ils ont voulu faire pression sur l'empereur. Et là, on a vu que ça a mal tourné. Et ils ont voulu comme excommunier Michel Cérulaire, qui était leur leader. Et le peuple aimait Michel Cérulaire. Alors, ils se sont révoltés et les légats de Rome, ils ont voulu les mettre dehors, ils ont été obligés de se pousser, se sauver pour pas être condamnés, pour pas mourir. Alors, vraiment, la rupture s'est faite là. Ainsi, ce qu'on appelle le schisme de 1054 n'est au départ qu'une condamnation réciproque entre le patriarche de Constantinople et les légats du pape. Les contemporains s'en émeuvent peu, tant que la mort de Léon IX frappe d'invalidité l'excommunication prononcée contre Michel Cérulaire. Alors, il y a des questions de... T'es excommunié, ensuite on lève l'excommunication, parce que... Les relations entre les deux mondes reprennent, et ce n'est qu'avec la prise et le pillage de Constantinople par les croisés en 1204 que la rupture est effectivement consommée. Alors, on va voir un petit peu plus tard qu'il va y avoir les fameuses croisades. Alors, les deux groupes vont participer. Et le groupe de l'Orient vont piller Constantinople. Et à quelque part, ça va déplaire au pape. Et là, ça a brisé de façon... Tu sais, 1054, c'était... Le monde s'énervait pas trop là-dessus, là. Mais là, quand il y a eu le pillage là, par les croisés, le pape, il ne l'a pas pris. Alors, à l'époque des deux anathèmes, le fossé séparant le monde oriental et le monde occidental est tel, même s'il n'y a pas eu de schisme au sens strict du terme, la séparation semble déjà avoir lieu. Autrement dit, ça a commencé en 1054, puis ça a eu comme l'étampe d'approbation en 1204, quand l'Orient a voulu s'emparer des biens. Probablement que les deux groupes voulaient s'approprier certaines les croisades. Ils devaient rentrer dans des endroits puis piller la ville, comme c'était à l'époque ça se faisait. Et durant tout ce temps-là, de 1204 à venir jusqu'à aujourd'hui, tout récemment, alors, le 7 décembre 1965, les deux anathèmes du 11e siècle ont été levés par une déclaration commune du pape Paul VI, qui était le haut dignitaire du catholicisme, et le patriarche Athénagoras. Athénagoras, qui était le haut dignitaire d'orthodoxie. Alors, ils ont levé toutes les deux leurs excommunications 800 ans après. Alors, on voit que les chicanes, des fois, ça dure longtemps. Alors, bien entendu, l'union entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe n'est toujours pas pleinement réalisée encore, quoique, à cause de l'écuménisme, quand on va arriver dans l'Église, dans l'histoire de l'Église moderne, on va voir que des années, ben là, on a vu que ça a commencé dans les années 65, on va voir que des années 80, ça s'est beaucoup développé avec Jean-Paul II, où Jean-Paul II a voulu ouvrir le catholicisme non seulement à tous ceux qui portaient le nom de chrétiens, entre guillemets, là, les orthodoxes, les protestants, il a vraiment voulu tout ramener à Rome. On va voir que là, ça s'est développé beaucoup, mais c'est pas encore fait, disons qu'actuellement, les coutumes qui font partie de l'Église orthodoxe ne sont pas encore complètement changées pour avoir rentré sous la jupe de Rome de façon définitive. Autrement dit, il y a eu des rapprochements sérieux, puis on voit que ça s'en va vraiment vers la réunification sérieuse. Alors ça finissait l'article du dictionnaire Larousse. C'était très bien fait, ça résume les grandes idées. Pourquoi c'est arrivé. Alors maintenant, j'ai ajouté ce qu'il y avait dans le petit cours. Il y avait des petites mentions dans le petit cours que j'avais suivi sur Internet par un pasteur américain. Il y avait des petites mentions qui ne sont pas dans le texte. Alors, j'ai ajouté les facteurs qui ont mené à la grande division. Alors, plusieurs facteurs ont contribué à cette grande division. On a vu tantôt la controverse iconoclaste, donc, autrement dit, la question des images ne s'entendait pas nécessairement sur ce qu'on pouvait faire avec les images. La controverse du folioque, il y avait des disputes territoriales qu'on n'a pas vraiment touchées tantôt. Et il y avait aussi la controverse de l'autorité, c'est qui avait autorité un sur l'autre. Il y avait des différences culturelles et des différences politiques. Alors, j'ai repris les différentes idées qu'il y avait dans le document de base que je m'étais servi. Je vais juste garder un peu une explication sur chacune. Alors, la controverse iconoclaste. Un iconoclaste, c'est une personne qui détruit les images religieuses et qui s'oppose à leur vénération. La controverse du folioque, on l'a vu tout à l'heure, l'Église latine affirmait que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, tandis que l'Église orientale affirmait que le Saint-Esprit procédait du Père seulement. Le résultat de tout cela, de multiples débats, de nombreux livres défendant une ou l'autre position et du sang en abondance. Alors, il y a eu beaucoup de violence suite à ces affaires-là. Les disputes territoriales. Alors, comme on avait vu tantôt, l'Église d'Orient avait certains territoires sur le territoire de l'Église d'Occident et inversement. Alors, à cause du fait que c'était pas délimité de façon très précise, ça créait des conflits de territoire, des conflits de juridiction. Il y avait la controverse de l'autorité, bien entendu, le pape de Rome et le patriarche de Constantinople avaient des conflits concernant l'autorité ecclésiastique. Il y avait des différences culturelles, on en a parlé un petit peu tantôt. L'Église d'Orient avait autorisé le mariage des prêtres. L'Église de Rome donnait le repas du Seigneur avec des hosties, donc du pain sans levain, tandis que l'Église d'Orient acceptait le pain ordinaire. La langue officielle de communication pour l'Église de Rome était le latin, tandis que l'Église d'Orient parlait le grec. Il y avait plusieurs autres différences au niveau culturel. Et les différences politiques, l'Église de l'Orient n'avait pas de problème à obéir à l'empereur. Le pape, lui, se disait indépendant de l'État et était persuadé de son droit moral à dominer et à superviser les souverains. Alors, on voit que c'est vraiment deux façons de voir le monde. Les orientaux disaient, ben nous, on n'a pas de problème à obéir à l'empereur, tandis que le pape, il disait, moi, j'ai le droit de dominer sur eux, puis j'ai le droit de les superviser, puis j'ai le droit de je suis le roi des rois. Il se considérait comme cela. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est vraiment le développement des ordres religieux en Occident. Alors, les dérèglements du clergé et son influence favorisèrent le développement de la vie monastique. Les couvents restaient de véritables asiles pour les âmes lassées de la corruption du siècle. Mais ils ne pouvaient se maintenir à un certain niveau que par la création de nouveaux ordres et par des tentatives incessantes de réforme dans la vie des ordres existants. Autrement dit, il en existait, mais il finissait toujours par se corrompre au point que fallait inventer des nouveaux et il fallait imposer des règles plus sévères, plus précises. Alors cependant, le principe même de ces communautés d'origine orientale, vouées au célibat et souvent séparées du monde, était en contradiction avec les enseignements bibliques. Le Christ a exprimé la volonté que ses disciples vivent dans la simplicité et l'obéissance directe à ses commandements, tout en restant intégrés dans la société de leur temps, dont ils doivent être, comme dit les Écritures, le sel et la lumière. On va regarder les versets qui parlent de ça. Le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre » dans Matthieu 5, versets 13 à 15. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Dans Jean 17, prière sacerdotale, les versets 11 à 20, c'est encore plus clair que le Seigneur ne voulait pas que les siens s'en allent dans des endroits comme cela, comme les monastères. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Alors, on voit ici l'intention du Christ, c'était vraiment pas que les chrétiens s'isolent dans des monastères, mais qu'ils restent dans le monde et qu'ils soient la lumière et le sel dans le milieu où ils étaient. Et c'était une désobéissance aux Écritures. Et ces choses-là ont eu des immenses conséquences. Le développement des monastères donnait donc une fausse orientation à la vie spirituelle et détournait les chrétiens d'élite du témoignage qu'ils auraient dû rendre dans la société. La vie monacale a été à la fois un signe de vitalité spirituelle, mais en même temps une cause de décadence pour la société médiévale occidentale, privée ainsi de ses meilleurs éléments. On a vu qu'en Orient, le monachisme a été une cause importante de la faiblesse des églises face aux invasions mongoles et turques. Plutôt que de se réfugier dans les monastères, les vrais croyants auraient dû rester dans la société pour y témoigner et combattre son immoralité avec les armes de Dieu. Alors, on va commencer à regarder les différents grands ordres qui ont été créés dans cette époque-là. En 910, Bernon, de la famille des comtes de Bourgogne, entreprit une réforme de l'ordre de Saint-Benoît, fondé en 529 par Benoît de Nursie au mont Cassin, et créa dans ce but le célèbre monastère de Cluny. Ça va devenir vraiment un endroit où il va y avoir des réformes importantes qui vont se faire, le fameux monastère de Cluny. Ses successeurs furent Odon et Odilon, qui le firent briller d'un vif éclat. La vie des moines occidentaux, moins contemplative que celle des ascètes orientaux, se partageait entre la prière, la culture des terres, quelques travaux scientifiques et la copie des manuscrits, notamment les manuscrits de la Bible. Souvent, ce qu'on retient des moines, c'est qu'ils copiaient la Bible. C'est un rôle important qu'ils ont eu à l'époque. Vers 1012, Romuald fondait en Italie l'ordre des Camaldules à Camaldoli, moi ceux-là je ne les connaissais pas avant, près de Florence. En 1073, sous l'inspiration de Grégoire VII, Étienne de Thiers créa l'ordre de Gramont. Il fut bientôt éclipsé par Bruno, recteur de l'école annexée à la cathédrale de Reims, qui fonda l'ordre des Chartreux. Bruno, né à Cologne, homme d'une piété sincère, mais scandalisé par la vie mondaine de son supérieur, l'archevêque de Reims, vint trouver en 1084 l'évêque de Grenoble. Il lui demanda une concession perdue dans les gorges sauvages des Alpes et construisit la Grande Chartreuse, à quelques kilomètres de Grenoble. La règle de l'ordre fut la pauvreté, le travail manuel, les études, le silence et les exercices de dévotion. Appelé à Rome par le pape Urbain II, Bruno fut vite lassé de la cour pontificale et alla en Calabre et fonder en Calabre une autre chartreuse où il mourut en 1101. En 1094, Robert d'Arbrissel fonda l'ordre des pauvres de Christ pour les deux sexes. La maison mère fut l'abbaye de Fontevraud en Poitou. Cet ordre n'eut pas une vie très longue. Plus heureux que d'Arbrissel, Robert de Molème fonda en 1098 l'ordre de Citeaux au sud de Dijon et l'ont pris comme modèle la règle de Benoît. Il proscrivit le luxe dans les églises et remplaça par un froc blanc la coutume noire, le costume noir des bénédictins afin de ne pas les confondre. Bernard, prédicateur de la seconde croisade, né en 1091 près de Dijon, élevé par une mère pieuse, entra dans l'ordre en 1113, le réforma et attira dans l'abbaye un si grand nombre de religieux qu'il fut bientôt obligé de créer un second monastère établi à Clairvaux. Alors, quand vous avez vu le fameux Bernard de Clairvaux, c'était lui. Alors, lui a eu une grosse influence à cette époque-là parce qu'il était vraiment une personne qui voulait marcher droit. Et ça l'a eu à l'époque, le fait d'attirer les âmes qui avaient le même genre d'esprit que lui. Alors, il fut, bien entendu, l'un des hommes les plus influents de son temps. Même dans nos livres de chants, je pense qu'il y a certains chants qu'on voit Bernard de Clairvaux. Alors, imaginez-vous, personne qui a vécu en l'an 1200 et qui a encore de l'influence chez nous, c'était une personne qui était, à l'époque, là, très influente. Sous sa direction, l'ordre des Cisterciens se distingua par son austérité. Mais après sa mort, en 1153, l'ordre, qui comprenait plus d'une centaine de communautés extrêmement riches, sombra vite dans la mollesse et le relâchement. En 1120, un autre homme d'envergure, Norbert, qui a vécu entre 1085 et 1134, prédicateur populaire, fonda l'ordre des Prémontrés. Enfin, les croisades amenèrent encore la fondation d'une communauté nouvelle, analogue à celle des Chartreux, celle de Notre-Dame du Carmel ou des Carmes et Carmélites, créée par un croisé calabrais Berthold sur le célèbre Mont Carmel. De nombreux couvents d'hommes et de femmes assujettis à cette règle se répartirent partout dans l'Occident. Voyez-vous, moi je me souviens, je viens de Lac-Mégantic, puis Sherbrooke, c'est quand même une ville qui, à l'époque, a quand même à peu près 80-90 000 habitants. Toutes ces affaires-là, les Carmélites, ça existe encore à Sherbrooke. Alors, c'est toutes des affaires qui ont été fondées, voyez-vous, en l'an 1100, 1200, puis ça s'est répandu un petit peu partout à travers la Terre. Il y en avait à Sherbrooke, il y en avait à Québec, il y en avait, je ne sais pas ici à Rouyn-Noranda s'il y en avait des Carmélites, là, mais il y en avait beaucoup. Autre chose, au 12e siècle, le monachisme subit une très grande transformation. Alors là, le François d'Assise, avec les franciscains. Il était le fils d'un marchand drapier. C'était une âme ardente et singulièrement impressionnable. Nous assistons à l'établissement de ce qu'on a appelé les ordres mendiants. François voulut, pour fuir les tentations du monde, imiter en tout point la vie du Seigneur. Cette vie de renoncement l'amena à des exagérations qui donnèrent le jour à d'innombrables légendes. Au retour d'un voyage en Palestine, il se passionna pour la restauration des églises ruinées. Avec quelques hommes dévoués à ses projets, il fonda un ordre nouveau, celui des frères mineurs ou franciscains. Je me souviens encore là, quand j'étais jeune, dans le temps du carême, ils venaient des franciscains nous prêcher, alors que leur habit brun, je les vois encore avec leur chapeau, avec leur ceinture. C'est là qu'on voit que ces affaires-là, ça a eu de l'influence, ça a continué pendant des siècles, et ça continue encore. Alors, il était habillé d'un froc brun, un grand habit, une grande robe brune d'étoffe, avec un capuchon. Et il s'était soutenu par une ceinture de cordes. Les moines devaient parcourir le monde sans argent, en vivant au monde tout en prêchant. François mourut en 1226, après avoir demandé avec insistance à Dieu de le faire passer par toutes les souffrances du cœur. Là, je pense qu'il ne comprenait pas ce qu'il demandait. Il ne comprenait vraiment pas ce qu'il demandait. Ses amis virent ou crurent voir se former sur sa personne les cinq plaies du Sauveur en croix. Ce qui arrive, c'est que à cette époque-là, comme ça dit, il y avait beaucoup, ça créait des légendes, et là, les gens se disaient ça de père en fils. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai? C'est vraiment difficile de faire la part des choses. Comment qu'on voudrait faire une enquête? On est rendu à 2015, faire des enquêtes sur ce qui s'est passé au 12e siècle. Disons que nos chances d'avoir la vérité sont minces. Alors, du vivant de François, une jeune fille, sa compatriote, Claire d'Assise, les fameuses Clarisses, fonda dans le même esprit l'ordre des Clarisses. François eut lui-même l'idée d'affermir son ordre en créant une confrérie laïque, le tiers-ordre. Ça existe encore, ça, le tiers-ordre des franciscains existe encore, mais je suis certain qu'il y en a un rang de ça. Oui, sûr. Celui-ci fournit aux fondateurs des défenseurs et des soutiens de l'ordre dans toutes les classes de la société. Alors, une autre... ordre qui est très important, qui a été créé à cette époque-là, c'est vraiment celui des Dominicains, parce qu'ils ont eu un rôle énorme dans l'Inquisition. Alors, et non seulement dans l'Inquisition, mais dans la lutte au protestantisme. Alors, l'ordre des Dominicains, ou encore des frères prêcheurs, comme ils les appelaient, en 1215, fut fondé par Dominique de Guzman, surtout préoccupé de combattre l'hérésie. Alors, lui, son idée, selon lui, les protestants, c'était des hérétiques, puis lui, il voulait les combattre. Par toutes sortes de moyens militaires et autres. Alors, il s'opposa vivement à l'idée naissante de l'Immaculée Conception de Marie, préconisée avec enthousiasme par les franciscains. Voyez-vous, les fameuses chicanes entre les ordres. Alors, vois-tu, lui, il ne croyait pas trop à la Sainte Vierge, tandis que les franciscains n'arrêtaient pas de... Alors, ça créait des conflits entre eux. Et là, le pape se trouvait comme pogné à être obligé d'arbitrer ces affaires-là, puis ce n'était pas facile. Donc, il y a eu des longues querelles entre les deux ordres qui ne manquaient pas, parfois, de créer des sérieux embarras à la papauté. Innocent III remit le tribunal de l'Inquisition, qui devait acquérir plus tard une si triste notoriété, entre les mains des Dominicains. On va avoir une leçon juste là-dessus, et on va voir que, vraiment, c'est pas leur honneur quand on regarde tout ça, là. Les crimes atroces qu'ils ont commis au nom de la religion et de l'amour de Dieu, c'est incroyable. Alors, ce tribunal de l'Inquisition fut établi pour rechercher et punir les hérétiques. Alors, on va revenir là-dessus dans une autre leçon. Après ça, il y a eu l'ordre des Templiers, composé de moines guerriers, qui ont reçu la mission de combattre les infidèles aux côtés des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1090. Alors ça, c'était à l'époque des croisades, il avait besoin d'hommes militaires, et ces ordres-là ont été fondés. C'était comme une armée qui voulait aller écraser les hérétiques, pas les hérétiques, ceux qui appelaient les hérétiques. L'ordre des chevaliers teutoniques se joignit plus tard à celui des chevaliers porte-glaive. L'ordre espagnol des chevaliers de Saint-Jacques combattit les morts. Donc c'est ça, les fameux morts, là. Alors c'était l'idée d'aller combattre les Arabes. Alors, l'ordre des Rédemptoristes, ça, j'ai appris ça dans cette leçon-là, je ne savais pas. Les Rédemptoristes, on a entendu parler de ça, ils ont des problèmes, ils ont des scandales actuellement, là. Alors, les Rédemptoristes, fondés par Jean de Matha, qui était un docteur de l'Université de Paris, eut pour but de racheter les captifs chrétiens devenus esclaves des musulmans. pour ça qu'on les appelait, j'ai compris pourquoi le Rédempteur, j'avais toujours pensé que ça avait un lien avec Jésus-Christ, Rédempteur, Rédemptoris. Mais non, Rédemptoris voulait dire racheter les prisonniers qui avaient été pris par les Arabes et probablement qu'ils devaient avoir des échanges où ils devaient payer pour récupérer les anciens soldats qui avaient été ramassés par les musulmans. Alors, bien entendu, ces ordres-là, quand on regarde dans l'ensemble, ils ont fait du bien. On ne peut pas nier le bien qu'ils ont fait, là. Mais c'est pas de regarder ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de mal aussi. Mais souvent aussi, les mœurs se relâchaient dans les couvents. Certains ordres cherchaient à s'enrichir et accaparaient des biens considérables au détriment des populations environnantes. Ainsi, par son organisation hiérarchique, par ses monastères, par ses dogmes qui comportaient des doctrines étrangères à la Bible, par son cérémonial formaliste et entaché d'idolâtrie, par sa morale qui comprenait les pénitences extérieures et les indulgences, l'Église catholique officielle s'écarta peu à peu des principes posés par Jésus-Christ. Mais pendant toute cette période, des chrétiens isolés, comme des communautés, des confréries et de petites églises non officielles ou clandestines ont cherché à demeurer fidèles aux enseignements de l'Évangile. Leur situation difficile, l'opposition et les persécutions qu'ils rencontraient soulignent la détresse de l'Église fidèle de Jésus-Christ, alors même que la chrétienté officielle, sous la conduite de la papauté, triomphait et dominait dans toute la société du Moyen Âge. Alors, c'était une époque très difficile pour les véritables croyants. Toute cette période-là. Parce que le pape devenait de plus en plus puissant et les véritables croyants étaient de plus en plus persécutés et maltraités. On va voir ça au cours des prochaines leçons, là. Parce que quand on arrive dans les années 1000, ça commence à être l'apogée de la puissance de Rome et après ça, ça va commencer à diminuer. Alors, j'ai mis, comme d'habitude, des questions d'études sur ce qu'on a vu et ensuite, on va regarder les trois applications pour la leçon d'aujourd'hui. La première, je dirais, prenons conscience que nous vivons dans la continuité de l'histoire. Les décisions ou les erreurs comprises, nos prédécesseurs, continuent de nous influencer, même de nos jours. Ça, c'est évident. Mais des fois, de voir la continuité, de voir que, tu sais, on dépend des décisions que d'autres ont prises avant nous autres. Autant leurs bonnes que leurs gaffes, souvent. Deuxième point, sommes-nous persuadés que la seule autorité des Écritures peut nous sortir des controverses et non l'autorité ecclésiastique et la tradition? Voyez-vous, si on s'était entendu dans les questions où on s'ostinait entre les deux groupes, si on s'était entendu, on utilise uniquement les Écritures pour trancher les questions, ça n'aurait pas arrivé. Alors, c'était vraiment la volonté de s'attacher à leur tradition qui créait toutes ces affaires-là. Et c'est encore ça aujourd'hui. Quand on exclut l'exclusivité des Écritures pour régler les problèmes, on s'égare. C'est automatiquement. Troisième application, apprenons que toute déviation de l'enseignement du Christ et de la Bible mène à des dérèglements de toutes sortes et au désordre. Par exemple, les fameux ordres religieux, ben c'est pas ça que le Christ voulait, mais ça l'a emmené toutes sortes, une quantité phénoménale de problèmes et de péchés. Alors, soyons vigilants et veillons comme nous l'a ordonné le Maître par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.